RFI, il est 3h du matin à Paris, 1h en temps universel. C'est l'heure de votre journal.
Fabrice Le Grillet.
Pas de Volodymyr Zelensky, pas de Vladimir Poutine, pas de pourparlers directs entre la Russie et l'Ukraine. À la place auront lieu dans quelques heures à Istanbul des négociations tripartites et des participants qui ne s'attendent pas à grand-chose, à l'image du secrétaire d'État américain Marco Rubio, que nous écouterons dans un instant. À Gaza, une fondation créée par les États-Unis se dit prête à commencer à distribuer de l'aide humanitaire d'ici la fin du mois. Une fondation non soutenue par l'ONU, tandis que de nouveaux raids israéliens ont fait 120 morts ces dernières heures. Les gros porte-conteneurs vont-ils revenir dans le canal de Suez? L'Égypte le souhaite et baisse ainsi ses tarifs. Mais cela sera-t-il suffisant? L'avis d'un expert du transport maritime dans ce journal. Et à Paris, la protection de l'enfance au cœur d'une manifestation ce jeudi. RFI y était. C'est finalement ce vendredi que se tiendront à Istanbul non pas des négociations directes entre la Russie et l'Ukraine, mais plutôt des réunions trilatérales avec d'un côté turc, américain et ukrainien et de l'autre côté turc, américain et russe. Pas de réunion en vue avec les quatre parties autour de la table donc. Ce jeudi aura en tout cas été une journée d'attente, de déclarations dans tous les sens et de noms d'oiseaux échangés. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio confie ne pas avoir de grandes attentes concernant ces pourparlers.
J'espère que ces discussions auront lieu entre l'Ukraine et la Russie, en présence de nos homologues turcs, ainsi que d'un membre ou de plusieurs membres de notre équipe au niveau approprié. Mais je veux être franc, je ne pense pas, nous n'avons pas de grandes attentes quant à ce qui se passera demain. Et franchement, à ce stade, je pense qu'il est tout à fait clair que la seule façon de parvenir à une avancée décisive est que le président Trump et le président Poutine se rencontrent. Il faudra un engagement à ce niveau pour faire avancer les choses. Je ne pense pas que quoi que ce soit de productif puisse se produire à partir de maintenant, tant qu'ils n'auront pas eu une conversation très franche et directe. Ce que le président Trump est prêt à faire, je le sais.
Donald Trump qui a effectivement déclaré ces dernières heures, je cite, « Rien ne se passera tant que Vladimir Poutine et moi ne serons pas ensemble ». Le Premier ministre britannique Keir Starmer affirme lui que Vladimir Poutine doit, je cite, « payer le prix de son refus de la paix ». Volodymyr Zelensky, qui ne se rendra pas à Istanbul, a envoyé une délégation sur place. Il a accusé Moscou de ne pas prendre ces discussions au sérieux, qualifiant de pure façade la délégation russe emmenée par l'un des conseillers de Vladimir Poutine, le président ukrainien qui a en échange été traité de clown par la diplomatie russe. L'ONU annonce qu'elle ne participera pas à la distribution d'aide humanitaire de la nouvelle fondation créée, soutenue par les États-Unis, la Fondation humanitaire de Gaza, c'est son nom, entend commencer à distribuer cette aide dans la bande de Gaza d'ici la fin du mois, mais on connaît peu de choses à son sujet. Pour l'Organisation des Nations Unies, les modalités ne respectent pas les principes d'impartialité et d'indépendance et rappellent que des camions chargés notamment de 171 000 tonnes de nourriture attendent de pouvoir entrer dans le territoire. L'aide humanitaire y est bloquée depuis le 2 mars. Plusieurs ONG affirment que les 2,4 millions d'habitants sont menacés d'une famine de masse. La bande de Gaza où de nouveaux bombardements israéliens ont fait 120 morts ces dernières heures. En République démocratique du Congo, les sénateurs réunis ce jeudi pour évoquer la situation de Joseph Kabila. Ils examinaient une demande de levée d'immunité concernant l'ancien président qui a le titre de sénateur à vie afin que les autorités puissent engager des poursuites. Les autorités congolaises qui l'accusent d'être complice de la rébellion AFC M23 qui a pris le contrôle d'une partie de l'Est du pays. Les débats ont lieu à huis clos et finalement c'est une commission qui a été mise en place pour examiner les charges contre l'ancien président, charges qui sont assez lourde à Kinshasa, Paulina Zidi.
L'ancien président est soupçonné par la justice militaire de participation à un mouvement insurrectionnel, trahison et intelligence avec l'ennemi et participation à des crimes de guerre. Les preuves mises en avant sont des prises de parole dans les médias où il évoque la FCM 23, un témoignage d'un proche de Corneille Nanga, ce dernier est le chef du mouvement rebelle, Erin Kumba, en prison ici à Kinshasa, aurait rapporté des propos compromettants de l'ancien président. Enfin, il y a la présence présumée de Joseph Kabila à Goma, ville sous le contrôle des rebelles. Cette absence de décision de la part du Sénat, qui met donc d'abord en place une commission, n'est pas une surprise. C'était une option privilégiée depuis hier pour prolonger les débats. Il faut rappeler que c'est un dossier complexe puisque Joseph Kabila est à la fois sénateur à vie, mais aussi ancien président de la République. Or, la levée de l'immunité pour un ancien chef de l'État nécessite une autorisation du Congrès, c'est-à-dire une réunion conjointe des deux chambres du Parlement. Pour certains sénateurs, la Chambre haute n'est pas compétente pour lever cette immunité. Pour d'autres, c'est dans ses prérogatives. C'est en tous les cas ce que la commission devra essayer de trancher. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
La République démocratique du Congo, où plus de 100 personnes sont par ailleurs mortes dans des inondations dans un village dans l'Est, village situé près des rives du lac Tanganyika. En cause donc ces inondations liées aux pluies torrentielles, les rives des grands lacs de l'Est sont aussi entourées de collines fragilisées par la déforestation. Le réchauffement climatique est également mis en cause. Les gros porte-conteneurs vont-ils revenir dans le canal de Suez? L'Égypte a décidé de baisser de 15% à compter de ce jeudi et pour 3 mois ses tarifs pour les gros navires qui passent par cette voie qui relie l'Europe, l'Asie et le Moyen-Orient. Une mesure incitative qui intervient après l'annonce d'un cessez-le-feu entre les États-Unis et les Houthis au début du mois. Car un an et demi après les premières attaques des rebelles yéménites contre des navires transitant par la mer Rouge, ils sont toujours obligés de faire un détour par le cap de Bonne-Espérance. Résultat, une chute de 60% de l'activité du canal et un manque à gagner pour le Caire de 7 milliards de dollars l'année dernière. Mais pour Jérôme de Riclès, expert du transport maritime chez Eupli, cela ne suffira pas. On l'écoute au micro d'Aurore Lartigue.
Le problème, c'est que aujourd'hui, la sécurité n'est toujours pas garantie, même si, effectivement, les attaques ont drastiquement baissé depuis le mois de janvier. Les Houthis, dans plusieurs canaux de presse, ont démenti qu'ils mettaient fin à toutes leurs activités. Il y a un juge de paix incontournable, c'est la question assurantielle. Et pour le moment, les assurances risques de guerre restent très élevées, donc une baisse de 15% du coût du canal, une offre promotionnelle à saisir, n'est pas suffisante pour pouvoir, à ce stade, faire rebasculer le marché par le Bab el-Mandab et par Suez. Il y a une petite reprise, mais il s'agit quasi uniquement soit de petits navires qui prennent le risque, soit de navires pétroliers plus ou moins proches de ce qu'on appelle la Dark Fleet russe, mais les gros porte-conteneurs, qui sont ceux qui payent le plus cher, les navires qui coûtent très cher à assurer, pour le moment, ça n'est pas à l'ordre du jour.
Et pour l'heure, ni MSC, ni Maersk, ni CMA-CGM, les plus grosses compagnies de transport maritime, n'ont annoncé une reprise du trafic dans la zone. En France, la protection de l'enfance mise en avant ce jeudi sur l'esplanade des Invalides à Paris, à l'appel du collectif des 400 000. 400 000, c'est le nombre d'enfants que l'on estime avoir besoin de la protection des pouvoirs publics. Le collectif, lui, regroupe associations, institutions et acteurs de la société civile qui sont engagés pour les protéger. L'objectif du rassemblement: alerter sur le manque de moyens et de dispositifs alloués à ceux qui œuvrent pour aider ces jeunes en danger. Reportage pour RFI, Sylvie Coffi.
Moyens financiers insuffisants, familles d'accueil en sous-effectif. Pierre Alain Sartou, porte-parole du collectif des 400 000, alerte sur la situation de ces enfants qui ont besoin d'être protégés par l'État.
C'est des enfants qui parfois ne sont pas assez protégés, c'est-à-dire qu'en réalité vous avez des juges des enfants qui vont à la suite d'un signalement dire que cet enfant doit être mis à l'abri, par exemple placé dans un foyer, dans une maison d'enfants à caractère social, et faute de temps, faute de moyens, faute de place disponible, il va s'écouler plusieurs semaines, plusieurs mois avant qu'il puisse véritablement être mis hors de danger.
Bonnet vissé sur la tête et longue doudoune, Quentin Pinto da Silva témoigne.
J'ai connu des violences de la part de certains éducs. J'ai parfois même alerté les éducateurs. Ils m'ont toujours dit oui, on va s'en occuper, ils n'ont jamais rien fait.
Placé dès ses 4 ans dans des foyers, il y a passé toute sa jeunesse.
Une colère à rapport à l'État qui n'a pas su me protéger comme il aurait dû le faire. J'ai honte parce que je me dis comment on peut laisser des enfants souffrir dans des foyers sans même qu'on agisse. On est souvent catégorisé comme des dossiers, comme des numéros et non comme des individus uniques.
Encore fragile, ce jeune adulte âgé aujourd'hui de 21 ans garde de nombreux traumatismes.
Sylvie Coffi pour RFI. Et puis en France, toujours et toujours à propos de l'enfance, l'Assemblée nationale a adopté à une large majorité en première lecture une proposition de loi qui vise à lutter contre la mortalité infantile. Le texte est porté par le groupe centriste Liot. Selon l'INSEE, le taux de mortalité infantile est passé de 3,5 décès pour 1000 enfants nés vivants en 2011 à 4,1 décès en 2024. Un chiffre qui est mis en rapport avec la fermeture des maternités, entraînant un allongement des temps de trajet pour les futures mamans. La proposition de loi prévoit ainsi d'instaurer un moratoire de 3 ans sur les fermetures de maternité. Du football, ça y est, c'est fait. Le FC Barcelone, sacré champion d'Espagne pour la 28e fois de son histoire. Le club a remporté ce jeudi soir le derby catalan face à l'Espagnol. Le score 2-0 et à 2 journées de la fin du championnat avec 7 longueurs d'avance. Le Barça ne peut plus être rattrapé par le Real.